Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité en mission officielle à Goma. Le ministre des Hydrocarbures a réceptionné aujourd'hui la première station industrielle de dégazage du golfe de Kabuno. Didier Boudimbo affirme qu'il faudra 3 stations du genre pour assainir cette partie du lac Kivu du gaz carbonique qui constitue selon lui une menace pour la population riveraine. Le CESAC met en garde contre une campagne électorale précoce entamée déjà à Kinshasa depuis la publication de la liste définitive des candidats à la députation nationale par la CENI. L'organe de régulation des médias congolais appelle au respect de la loi en la matière. Notre invité, c'est le chef du bureau des affaires civiles de la Monisco à Nitouri. Firmé connaît parler du soutien apporté lors du dialogue entre les groupes armés dans le territoire d'Arou. Objectif affiché, renforcer la cohabitation pacifique et restaurer la paix dans cette province instable à l'est de la RDC. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons par une page économique. En mission officielle à Goma, au Nord Kivu, le ministre des Hydrocarbures a réceptionné aujourd'hui les clés de la première station industrielle de dégazage du golfe de Kabuno. Didier Boudimbou indique qu'après la phase pilote qui avait été lancée en 2017, l'implantation de cette station de dégazage introduit ce projet dans la phase industrielle. Il affirme qu'il faudra au moins 3 stations de dégazage pour assainir cette partie du lac Kivu qui constitue déjà, selon lui, une menace pour les populations riveraines. Il est au micro de Bernard Nanyangui.
Le chef de l'État, le gouvernement, ils sont derrière pour vraiment sécuriser la population du Nord et du Sud Kivu. Je l'ai dit dans mon discours, faut pas confondre le dégazage de tout ce quand on enlève tout ce qui est dioxyde de carbone et tout ce qui est gaz carbonique qui n'est pas bon pour la santé, à l'exploitation du gaz méthane pour le transformer en électricité. Quand on le sort, il y a eu des plantations par rapport à tout ce qui a été fait au niveau de l'environnement pour essayer d'absorber ce gaz qui est nocif pour la santé des êtres humains. Là, c'est la première phase. Il reste 2 phases pour que nous puissions avoir le complet parce que d'après les études, il faut que nous ayons 3 stations industrielles. Là, c'est la première station. Il va en rester 2 qui seront livrées au fur et à mesure. Et quand on aura tous les 3, on a entre 1 année et demie, 2 ans pour être sûr que le dégazage pourra se faire complètement.
Notez que ce projet de dégazage est exécuté par la société française Limnological Engineering. Le coût de la phase industrielle de ce projet est évalué à plus de 5 millions d'euros. Une semaine après la radiation de 1200 sociétés qui œuvrent dans la sous-traitance en RDC, un délai de 30 jours est accordé pour se conformer à la loi. Annonce faite à Kinshasa par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Miguel Katembe Kachal rappelle que ces entreprises de sous-traitance ont été sanctionnées après 10 mois d'appel à régulariser leur situation. Explication de Jody Daniel Kachaman.
Les 1200 entreprises sanctionnées disposent des 30 jours pour se conformer aux conditions d'éligibilité prescrites par la loi. Celle-ci stipule que 51% des parts d'une entreprise de sous-traitance doivent être détenues par les Congolais et 49% par les expatriés. Miguel Katembe, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC.
Nous leur accordons 30 jours ouvrables pour introduire les recours. Dépasser les 30 jours, tout contrat signé avec les sociétés principales sera nul de plein droit. La résistance que nous rencontrons dans ces secteurs, c'est que la plupart des sociétés principales sont eux-mêmes des sous-traitants déguisés.
Rappelons que ces entreprises ont été sanctionnées après un contrôle exercé dans 20 secteurs d'activité de la sous-traitance. Miguel Katembe, le patron de la sous-traitance en RDC, lance un appel à la population congolaise. Il encourage les jeunes particulièrement à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Nous sommes en train d'assainir ces milieux afin de pouvoir laisser de l'espace à notre population qui longtemps ou jadis était frustré à l'accès des marchés à la sous-traitance. Le combat du président de la République, que les Congolais puissent aussi participer en tant que des sociétés principales et non pas de rester des sous-traitants éternels.
Dans un autre chapitre, la famille politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo affûte ses armes en prélude aux élections de décembre prochain en RDC. Un groupe de coordination de sa campagne a été présenté ce mercredi ici à Kinshasa. François Mwamba Tshishimbi, qui assure la coordination, affirme que ce groupe de 11 membres comprend 4 commissions. Il explique dans ce propos recueilli par Jacques-Yves Molima.
Le chef a mis en place la structure qui va coordonner l'ensemble des activités dévolues à ces équipes de campagne. Ces équipes vont se situer à plusieurs niveaux. Le premier niveau étant celui des grandes régions. Nous aurons 11 directeurs de campagne, un pour chaque grande région de notre pays. Nous aurons ensuite 26 directeurs au niveau des provinces, il y en aura donc 26, et progressivement, d'ici le début de la campagne officielle, nous aurons aussi mis en place des structures au niveau des territoires et au niveau des villes. Les 145 territoires et 36 villes auront des responsables. Bien entendu, toutes ces personnes auront été choisies en étroite collaboration entre les cabinets du président de la République, le parti phare du président qui est l'UDPS, l'Union sacrée et tous les autres alliés, y compris ceux qui souhaitent appuyer la candidature du président de la République sans nécessairement être membre de l'USN.
Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, interdit toute forme de campagne électorale précoce en RDC. Dans son communiqué rendu public hier à Kinshasa, l'organe de régulation des médias congolais dit avoir constaté, non sans amertume, ces jours-ci, une montée en flèche d'une campagne électorale précoce depuis la publication de la liste définitive des candidats à la députation nationale par la CENI. Par conséquent, le bureau du CESAC demande aux uns et aux autres de respecter la loi en la matière. D'autres précisions avec vous, Fulbert Balolagué.
Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication rappelle que la date de début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI n'est pas encore arrivée et dans son rôle d'organe régulateur, le CESAC demande aux médias et aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. Le CESAC demande aussi aux médias et journalistes qui s'adonnent déjà à cette pratique au mépris de la loi de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la directive du CESAC numéro CESAC bar AP bar 002 bar 2015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias. Ce communiqué du CESAC s'adresse aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tout autre professionnel des médias ainsi qu'aux acteurs politiques. Le bureau du CESAC invite alors l'observance stricte des prescrits de l'article 80 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale.
Merci Fulbert Balolagué pour ces précisions. Allons maintenant dans la province du Haut-Katanga où le commissaire provincial de la police nationale a présenté lundi au vice-gouverneur les présumés voleurs des feux de cathode de cuivre. Cet officier de la police nationale a expliqué à l'occasion dans quelles circonstances ces malfrats ont été appréhendés. Le vice-gouverneur, qui a salué le geste de la police nationale, a indiqué que ces personnes devraient être transférées au plus vite au parquet pour qu'elles répondent de leurs actes. À Lubumbashi, le récit de Jean Ganduka Bongo.
D'après la police, c'est à la frontière de Tshisekedi-Ndagara à Musoshi que les feux de cathode de cuivre et les câbles électriques ont été retrouvés dans un véhicule qui s'apprêtait à traverser la frontière de la Zambie. Le chauffeur a pris le large et ce sont deux convoyeurs qui ont été arrêtés. C'était 156 feux de cathode de cuivre et 15 sacs contenant les câbles électriques. Pour les deux convoyeurs, les propriétaires du véhicule se trouvent en Zambie. Toujours selon la police, toutes les personnes qui ont facilité le passage de ces biens volés ont été arrêtées, d'autres sont en fuite. Et très souvent, ces minerais sont volés sur des camions qui les transportent notamment sur la route des contournements, autrement appelée route des poids lourds, qui relie la route de Kasumbalesa à celle qui mène vers la ville de Likasi. C'est là que les malfrats braquent les camionneurs avant de subtiliser l'effet des cathodes de cuivre. Le vol des cathodes de cuivre et de câbles électriques sont très récurrents à Lubumbashi. En l'espace de 2 mois, c'est la 5e fois que les cathodes de cuivre sont saisis par les services de sécurité, notamment la police, soit environ 500 feuilles de cathodes de cuivre et plusieurs quantités de câbles électriques. Les personnes précédemment arrêtées et les autres sont entre les mains de la justice. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Allons maintenant à Mbujimayi où trois cadres de la Direction générale de recettes du Kasaï oriental sont suspendus à titre préventif. Il s'agit du directeur général de la régie financière, de la directrice chargée des recettes non fiscales ainsi que du directeur de recettes fiscales. Dans un arrêté, le gouverneur leur reproche l'inexistence des notes de perception et l'opacité dans la gestion des frais de fonctionnement. Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Aimé Matamba Chibamba, directeur général de la DGRKOR, Thérèse Mitongonsana, directrice en charge des recettes non fiscales, et Patrick Chikunga Wampoyi, directeur en charge des recettes fiscales, ne peuvent plus désormais engager la direction générale des recettes du Kasaï oriental DGRKOR. Plusieurs griefs sont portés à charge de ces trois cadres de la régie financière provinciale. Le gouverneur de province ad intérim leur reproche l'inexistence des notes de perception en souffrance avec des montants importants, les contraintes et commandements non exécutés, les suspensions des minorations des taux locatifs par les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus locatifs et l'opacité dans la gestion des frais de fonctionnement. Ce n'est pas tout. Il est également mis à leur charge des doutes sur la sincérité des déclarations contenues dans certaines lettres de transport présentées au péage, ainsi que la non-activation de la taxe conventionnelle de comptoir de diamant, pour ne citer que ça. L'arrêté provincial indique qu'en attendant l'action disciplinaire, le chef de division recouvrement est désigné directrice générale ad intérim de la DGRKOR. Toutes nos tentatives pour joindre ces trois cadres suspendus se sont avérées vaines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kalemie, le bureau intégré des Nations Unies a offert hier mardi à la SNEL une cabine électrique. Cet équipement est constitué d'un transformateur de 630 kVA, des deux disjoncteurs moyenne et basse tension et d'un stabilisateur des 500 kVA. Le chef de centre de la SNEL à Kalemie salue le geste de la mission onusienne qui va ainsi aider dans l'amélioration de la desserte en électricité dans cette ville du Tanganyika. Jules Kihuya le dit à Paul Mounanga.
C'est un geste très louable qui témoigne des bons rapports et des bonnes relations qui ont caractérisé les liens entre la MONUSCO et la SNEL. Parce que je pense que si ces liens n'étaient pas au beau fixe, la MONUSCO n'aurait jamais songé à rapprocher la SNEL pour faire une telle donation. Mes impressions sont davantage enrichies de positivité en rapport avec les besoins, surtout des riverains de Kalemie. Vous savez que la ville est en train de s'étendre au jour le jour. Bien, cet équipement nous permettra à coup sûr d'alimenter ceux qui sont encore en attente aujourd'hui de l'électricité, mais également, surtout, d'assurer la sécurité. Vous savez, la nuit, c'est le grand et premier facteur de l'insécurité. Mais quand on aura alimenté l'énergie électrique à tous nos alentours, nous croyons que la MONUSCO aura participé à un grand pas dans la sécurisation des personnes et des biens autour des Kalemies.
Et ça va aider aussi dans la lutte contre les délestages?
Non, pas forcément, parce que le délestage n'est pas forcément lié à la présence ou à l'absence des transformateurs. Les délestages sont liés plutôt à la disponibilité des charges dans chaque secteur.
Revenons un instant au Nord Kivu où les autorités provinciales ont rendu ce mercredi les derniers hommages aux policiers lynchés par les adeptes présumés de la secte La Foi Naturelle Judaïque Messianique lors des événements survenus le 30 août dernier. À cette occasion, le vice-gouverneur a assuré que les auteurs de cette barbarie ne resteront pas impunis. Il a promis également à la famille du défunt le soutien du gouvernement selon les dispositions légales. Le compte-rendu de Gabriel Ouamenia.
Cri de plaire, toute la famille est visiblement déprimée de chagrin et de tristesse. La veuve, les enfants ainsi que les membres du défunt étaient inconsolables ce matin sur l'esplanade du stade délimité. Dans l'oraison funèbre lue par l'un des responsables de la police en province, la bravoure et l'abnégation du policier évoqués par ses supérieurs lors de la cérémonie ont de nouveau provoqué l'explosion des cris de plaire de toute l'assistance à ses obsèques. Peu après le dépôt des gerbes de fleurs devant le cercueil du défunt, le vice-gouverneur a condamné fermement les lynchages du policier par les présumés Wazalendo alors qu'il revenait de son lieu de travail. Et Kukali Popo a affirmé par la même occasion et d'un ton ferme que les auteurs de ces crimes crapulés ne resteront pas impunis, quel qu'en soit les prix. Pour clôturer son allocution, et Kukali Popo a rassuré la famille, la veuve et les enfants du défunt de l'accompagnement de l'État congolais conformément aux dispositions légales à 11h locales qui marque la fin de la cérémonie d'hommage et d'adieu. Les corbillards qui transportaient les corps des passagers femmes ainsi qu'une longue file de véhicules ont quitté le stade délimité sous un regard assombri de la population vers le cimetière Macao où repose désormais pour l'éternité les policiers qui passent à Sikouli. Pascal Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et puis un éboulement de terre a coûté la vie à deux enfants hier mardi à Lukunga, village situé à près de 8 kilomètres de la cité de Gungu, chef-lieu du territoire du même nom dans la province du Kwilu. Le président de la société civile locale appelle les parents à veiller sur leurs enfants pour éviter pareil drame. Joachim Kusamba a été joint par Irine Boma.
Dans le village de Lukunga, pratiquement à 8 kilomètres du territoire de Gungu, deux enfants ont trouvé la mort, âgés de 7 ans, et ils sont tous en troisième primaire. Dans les après-midi, ils étaient en train de jouer. Alors, lorsqu'ils étaient en train de jouer dans un grand trou, finalement, la terre s'est coupée, et les six enfants-là ont été enterrés par la portion de terre-là. Finalement, les autres-là ont fui, et ils avaient peur de pouvoir communiquer à leurs parents. Finalement, c'est vers la soirée d'hier, vers 18h, les parents ont constaté l'absence de leurs enfants. Ils ont commencé à demander. C'est de là où on est allé découvrir que ces enfants-là étaient enterrés par une portion de terre qui s'était coupée, pendant que ces enfants-là étaient en train de blaguer dans les trous. Et on a déterré donc ces enfants-là, des garçons âgés de 7 ans, sans vie. Voilà les pleurs qui sont en train de s'observer. Alors nous demandons que les parents, pendant cette période scolaire, devraient veiller donc à la surveillance des enfants, surtout que s'ils quittent déjà les écoles, ou soit carrément s'ils ne sont pas à l'école, les parents devraient veiller à leurs enfants pour ne pas, c'est-à-dire, enregistrer de tels dégâts. C'était le trou où on prenait de la terre pour empiler la maison.
Actualité internationale.
L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a atterri ce mercredi à Paris. Le président Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche soir lors d'un entretien télévisé à Paris, alors que le diplomate français et plusieurs membres de son équipe vivaient retranchés dans l'ambassade depuis le putsch de fin juillet dernier. Et puis au Mali, l'armée nationale affirme avoir repoussé une attaque terroriste à Archané, localité située à 35 km au sud-ouest de Tombouctou, dans une attaque complexe d'envergure menée ce matin. Les autorités n'ont pas communiqué sur les bilans de cette situation car les évaluations sont actuellement en cours, mais l'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Jnin lié à Al-Qaïda.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau des affaires civiles de la MONUSCO en Ituri. Firmin Kone affirme que sa section a soutenu le dialogue entre les groupes armés dans les territoires d'Arou. Objectif affiché, renforcer la cohabitation pacifique et restaurer la paix dans cette province instable à l'est de la RDC. Il s'entretient avec Liliane Niatia.
Bonjour, c'est à voir que nous avons entrepris ou bien nous avons accompagné plusieurs dialogues intracommunautaires comme des dialogues intercommunautaires. Nous avons accompagné le gouvernement provincial dans sa recherche de la paix et de la cohésion dans la province en l'accompagnant dans l'organisation et également l'appui aux différents dialogues qui ont été organisés ici, soit à Bounia ici ou bien dans les territoires. Les résultats, ils sont là, ils sont visibles et palpables, mais c'est encore un long chemin à parcourir.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce dialogue inter- ou intracommunautaire n'ait pas abouti à la restauration de la paix en Ituri?
Les raisons sont multiformes. Il y a eu plusieurs engagements qui ont été pris, soit par les communautés, soit par les groupes armés. Il y a eu plusieurs feuilles de route, il y a eu plusieurs actes d'engagement. Mais la plus grosse difficulté, c'est que tous ces engagements n'ont qu'une valeur contraignante. On estime que chacune des parties devait exécuter sa part des engagements avec la bonne foi. Malheureusement, comme vous le savez, la mauvaise foi est la chose la plus partagée dans le monde.
Donc, principale raison, c'est le manque de sincérité des signataires.
Il y a le manque de sincérité. Il y a aussi ce que dans les différents actes d'engagement, les feuilles de route et tout ce qui a été signé, il y a des rôles ou des attributions qui devraient être exercées par d'autres que les communautés. Par exemple, ça pourrait être un acte qui devrait être pris par, soit par le gouvernement provincial ou mieux par le gouvernement national ou par d'autres structures, peut-être même par la MONUSCO elle-même. Mais lorsque ces engagements ne sont pas tenus, Vous comprenez que une partie sentira qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement dans la voie de la recherche de la paix. Une des quatrièmes difficultés, c'est liée à la cohabitation entre les communautés elles-mêmes.
On pourrait penser que finalement, ces dialogues ont été organisés pour rien. Ils n'ont eu aucun résultat, même mineur.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu énormément d'avancées. Parce que vous vous souvenez peut-être que depuis 2017, quelle était la situation de l'Ituri, où il y avait des fractures un peu partout, où nous étions pratiquement dans un champ de bataille un peu partout. Mais aujourd'hui, vous allez constater que la paix est revenue, par exemple, dans le territoire de Bahagui. La paix est revenue plus ou moins dans le territoire de Haru. Nous avons également Irumu, même si ce n'est pas encore complètement pacifié, mais nous avons des poches où nous avons une accalmie réelle. Et vous pourrez constater avec moi également que pendant les préparatifs des dialogues, pendant la période de consultation, pendant les dialogues humains, et quelquefois pendant les mois, vous allez constater qu'il y a une décroissance des incidents sécuritaires. Mais il y a le suivi des engagements qui ont été pris, c'est généralement ce qui n'est pas le cas.
À vous entendre, le sentiment qu'on a, c'est que c'est un processus extrêmement difficile, long, beaucoup d'embûches. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à reconstruire la paix en Ituri?
Oui, la paix n'a jamais été un processus comme un fleuve tout calme qui coule. Non, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été une ligne rectiligne où on part d'un point A à un point B sans qu'il y ait... Non, il y a des remontées, il y a des bas, et puis on continue avec. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons tous une même vision. C'est d'aller vers la paix. C'est de ramener toute la communauté à aller vers la paix, à cohabiter surtout, et à engager des actions pour que, avec ses voisins, avec toutes les autres communautés, qu'elles puissent vivre ensemble. Il n'y a pas une des communautés qui n'a pas de mécanismes de gestion des conflits avec les autres. Pourquoi ne pas utiliser ces mécanismes de prévention et de gestion des conflits qui existent même entre les communautés?
Firmin Koné, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef des bureaux des affaires civiles de la MONUSCO en Ituri, Firmin Koné, interviewé par Liliane Niacha. Fin de ce journal. Merci d'avoir écouté.